Matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser cette semaine autour de l'animal humain, je ne devrais même pas dire l'animal humain, autour de animal humain, peut-être qu'aucun des deux n'est un substantif, peut-être qu'il n'y a pas l'animal qui serait en plus humain, mais qu'il y a animal et humain. Comment comprendre la coordination des deux dans notre espèce? Comment comprendre la relation aux autres espèces? Ce soir, nous allons en parler avec Alain Prochian. Alain Prochian, professeur au Collège de France, de la chaire des processus morphogénétiques, qui vient de publier, après une série de livres qui convergent peut-être vers celui-ci, un livre intitulé « Singe, toi-même ». Bonsoir Alain Prochian.
Bonsoir Frédéric Worms.
Merci beaucoup d'être venu ce soir.
Merci de m'avoir invité.
Est-ce que vous êtes d'accord avec l'hypothèse selon laquelle ce livre, « Singe, toi-même », dont le titre est certes ironique, s'adresse à l'humain d'ailleurs, mais peut-être justement avec une ironie qui veut montrer qu'il y a dans l'humain autre chose qu'un singe comme les autres. Est-ce que vous êtes d'accord avec l'idée que dans ce livre convergent d'une certaine façon tous les livres antérieurs, des livres qui en un sens conduiraient vers ce point critique où se départage l'animal et l'humain dans l'humain?
Oui, je ne suis pas sûr de ça tout à fait. Et je ne sais plus très bien ce que j'ai écrit avant. Donc,
vous avez écrit dernièrement, par exemple, une grande synthèse sur le vivant.
Qu'est-ce que le vivant? Oui.
Un livre qui, certes, avait en lui un chapitre déjà sur la différence entre l'humain et le singe et l'animal, mais qui le replaçait dans l'histoire générale du vivant. Alors qu'on a l'impression que c'est presque l'inverse, que tout dans votre travail sur le cerveau conduit vers cette différenciation. Oui. Du singe et de l'animal et de l'humain.
C'était cette étrange fureur d'être singe. Voilà. Je pense que c'était le titre du chapitre de
Qu'est-ce que le vivant?
Et non pas la vie, mais qu'est-ce que le vivant? Et donc oui, effectivement, ce dernier ouvrage, là, Singe toi-même, il repart vraiment, il amplifie le chapitre central de qu'est-ce que le vivant, oui.
Qu'est-ce qui fait, Alain Prochian, que c'est si important pour vous de comprendre la spécificité de l'humain? Est-ce que c'est la recherche sur le cerveau que vous menez de manière théorique? Est-ce que c'est aussi, disons, fondamentalement aussi, comme ça apparaît dans un chapitre très important du livre, les visées thérapeutiques, les visées pratiques, la connaissance aussi des humains, des relations des humains entre eux? Quel est l'objectif premier? Quand on voit que cette question devient un livre par excroissance du précédent, que ce chapitre de la vie devient un livre sur l'humain, qu'est-ce qui fait que ça vous importe à ce point?
D'abord, je suis un être humain. Hein, comme vous, Frédéric Worms.
Et vous voulez savoir ce que ça veut dire.
Et c'est important de savoir ce qu'on est, finalement. Qu'est-ce que l'humain? On dit souvent
cas,
qu'est-ce que
exemple,
l'homme, mais qu'est-ce que le singe? C'est une bonne question aussi.
Mais dans mon cas, par exemple, vous en êtes sûr tout de suite? Dès que vous m'entendez parler...
Si je vois entrer un chimpanzé dans une pièce, je sais le reconnaître tout de suite. Donc oui, vous avez l'air assez humain, oui. Non, c'est un livre qui est important dans différentes façons. D'abord parce que c'est une vraie question. Comment est-ce qu'en 7 millions d'années, s'est séparé des chimpanzés et des bonobos? C'est très court, 7 millions d'années. Et tout le lignage des hominines. Et donc, c'est une vraie question scientifique. C'est-à-dire que c'est même un mystère. On a pris quand même, on a quadruplé le volume du cerveau en 7 millions d'années. C'est quand même pas rien. Donc ça, c'est une question biologique fondamentale. Mm-hmm. Donc, qu'elle m'intéresse, bien entendu. Et l'autre chose qui est, alors, il y a les côtés des pathologies, bien entendu. Je m'intéresse aux pathologies, et ça, c'est clair. Ça fait partie de mon métier. Je suis un physiologiste et un généticien, plutôt physiologiste, d'ailleurs.
Et vous voulez soigner aussi
et donc, ça m'intéresserait
des pathologies neurologiques, des pathologies cérébrales.
Oui, ce sont quand même ce qu'il y a de plus intéressant, d'une certaine façon. Enfin, surtout pour un neurobiologiste. Enfin, si j'étais cancérologue, je dirais que je voudrais soigner le cancer, mais ce n'est pas le cas. Et puis, la chose la plus probablement importante, c'est que c'est au cœur aujourd'hui de controverses sociétales et une question sociétale importante de la distinction entre l'homme et l'animal, en dehors de la distinction entre l'homme et le singe. Alors, si on fait la distinction entre l'homme et les chimpanzés, c'est là où on est les plus proches. Donc, c'est là qu'il faut attaquer, si j'ose dire. Mais cette question de l'antispécisme, cette question du droit des animaux, toutes ces questions qui sont des questions qui, à mon avis, sont très très mal abordées, voilà, essentiellement par ignorance.
Donc c'est cette question sociétale malgré tout, et là c'est vrai qu'elle est très présente aussi, mais plutôt en bordure dans ce livre-ci, à part dans des notes, dans des conséquences, dans des aperçus, c'est cette question de la réduction possible de l'humain à l'animal, de cette, ce possible passage devant les droits des humains, des droits des animaux, cette question qui fait que vous, en tant que biologiste, vous ne voulez pas être mobilisé automatiquement d'un côté, mais montrer que le biologiste, le neurologiste lui-même, peut établir la différence, n'est pas forcément du côté qu'on croit.
Je pense que c'est une question politique forte aujourd'hui, de savoir que les humains ne sont pas des singes comme les autres. Je crois que c'est essentiel de rétablir la frontière entre l'homme et les animaux. Oui, ça c'est un des buts forts de ce livre, d'où le titre « Singe toi-même ». Bah, en même temps, c'est un titre à double détente, c'est-à-dire « Singe toi-même », que j'en dis « Oh, on est des singes ». Je réponds « singe toi-même ». En même temps, derrière, il y a « oui, tu es un singe, mais tu n'es pas un singe comme les autres ». Donc, c'est ce « pas comme les autres » qu'il faut comprendre. D'ailleurs, aucun singe n'est un singe comme les autres. Le chimpanzé n'est pas un singe comme les autres, il est un chimpanzé. On ne peut pas nier l'évolution, c'est tout.
Oui, mais alors, justement, à l'improchain, dans « singe toi-même », on a l'impression qu'un animaliste, entre guillemets, mais il y a beaucoup de gens qui se réclament de l'animalisme, pourrait dire ça à un humain qui voudrait ne plus être un singe. On lui dirait « tu es un singe toi-même », mais vous, c'est au contraire pour dire « tu es un singe, mais pas tout à fait comme les autres ». Qu'est-ce que vous entendez exactement par là, dans ce titre? Pourquoi ce titre peut-il montrer ça?
Parce que c'est une question scientifique. À moins d'être... moi, je suis évolutionniste, hein, darwinien.
On va y revenir, l'évolution. Donc, c'est un livre extraordinaire.
Il y a 7 millions d'années, il y avait un ancêtre commun entre les chimpanzés et nous, et les bonobos, qui ne sont pas des chimpanzés, hein, sont des pannes, hein, mais pas les mêmes. Et puis, en 7 millions d'années, et c'est parti 7 millions dans un sens, 7 millions dans l'autre. Et au bout d'une branche, il y a Sapiens, nous. De l'autre côté, il y a Pan paniscus ou Pan troglodytes, chimpanzé, enfin en l'occurrence bonobo et chimpanzé. Et donc les chimpanzés sont aussi uniques que nous comme espèce. Seulement c'est pas eux qui écrivent sur nous, c'est nous qui écrivons sur eux. Et donc ça n'a pas évolué dans le même sens. Alors je dis pas que c'est mieux, mais c'est différent. Voilà. Donc et nous sommes quand même des singes, faisant partie de
cet arbre-là.
Bah oui, bien entendu, oui. Mais pas chaque singe est singe lui-même.
Alors, avant de revenir au mécanisme et au fondement de cette différenciation qui repose beaucoup sur des sauts temporels et aussi des réouvertures d'un temps, parfois aussi des fragilités temporelles, puisque l'humain est aussi fondé sur une sorte de temps de réouverture, de temps où tout redevient possible et fragile dans l'évolution, mobile aussi, il y a une mobilité génétique qui est au cœur du livre. Je voudrais revenir quand même sur ce que vous venez de dire. Pourquoi est-ce que ça vous semble politiquement si important? Il y a beaucoup de dangers politiques aujourd'hui. Pourquoi est-ce que cette réduction de l'homme à un animal comme les autres vous semble quand même, de livre en livre...
Non, c'est l'antispécisme qui est inquiétant.
Qu'est-ce qui menace exactement?
L'antispécisme, si vous voulez, il est fondé sur le plan, je dirais, linguistique. Hein. On retrouve derrière antiracisme... essentiellement antisémitisme, antispécisme...
Le sexisme aussi, finalement le spécisme voilà, est décrit comme une variété de discrimination
voilà,
comme les
donc,
autres.
L'idée ce serait que finalement, un jour on réalisera que c'était la même chose de traiter les animaux comme on les traite que de traiter les Noirs, les Juifs ou les femmes comme on les traitait il y a 10, 20, 30 ans. Non, mais je dis que c'est pas la même chose justement, c'est-à-dire que je pense que c'est même dangereux de le dire. Donc je crois qu'il y a une grande différence, même si nous sommes des animaux, il y a une grande différence entre les humains et les non-humains. Et je crois qu'à vouloir brouiller comme ça les frontières, on prend un risque qui est justement le risque du racisme, de l'antisémitisme et du sexisme. Donc pas besoin d'aller très très loin en arrière dans l'histoire de nos civilisations pour savoir que chaque fois qu'on a voulu exterminer telle ou telle population... on les a animalisés.
Animalisés.
Voilà.
Donc au fond, ce que vous
voyez,
vous avez
anticipé.
Bien sûr.
Voilà.
Bien sûr, mais certains disent que pour éviter l'animalisation de l'humain, il faut un peu humaniser l'animal. C'est-à-dire que quand on traite l'humain d'animal pour l'exterminer, c'est aussi parce qu'on a réduit l'animal à quelque chose d'exterminable. Et justement, les défenseurs de l'animalisme disent que c'est l'animalisation de l'humain vient de cette coupure avec l'animal. C'est ce qu'ils disent. Je ne dis pas du tout que je suis d'accord avec eux, mais disons, c'est l'argument qu'on pourrait...
Il ne s'agit pas d'attaquer les animaux. Moi, je ne suis pas pour faire souffrir les animaux, même si j'ai envie d'en manger de temps en temps. Ce n'est pas du tout la question. La question, c'est qu'on ne peut pas... c'est l'anthropomorphisme, le danger. C'est-à-dire, évidemment, il y a une grande tradition philosophique, c'est pas à vous que je vais la raconter, bien entendu. Il y a l'animisme, essentiellement, il y a la philosophie de la nature, il y a cette espèce d'idée que dans chaque animal, il y a un humain, que dans chaque caillou même, il y a un humain. Enfin, faut relire Ovide.
Il y a du vivant, en tout cas.
Donc, sur le plan poétique, évidemment, les métamorphoses d'Ovide ou celles d'Apulée, c'est magnifique. Comme vous savez, on a un petit peu travaillé là-dessus. Donc moi, ça ne me dérange pas.
Dans le spectacle, en particulier.
Voilà, en particulier. Mais c'est beau sur le plan anthropologique aussi. Il peut y avoir des civilisations, des religions, dans lesquelles on a l'impression que l'âme de son parent est dans le corps de la panthère. Hein. Cette panthère est ma sœur, hein, comme dirait Philippe Descola. Et donc, ça, c'est tout à fait respectable. Mais sur le plan biologique et scientifique, de biologie, c'est faux, voilà.
Il faut commencer par séparer, même si l'humain ensuite peut se reprojeter et doit prendre aussi en charge la responsabilité de tous les vivants. Donc une des thèses de votre livre, qui va nous amener vers la démonstration biologique qui est impressionnante, c'est l'idée au fond qu'il faut d'abord, et on peut tout simplement, constater la spécificité des humains et aussi quelque chose de commun à tous les humains. Ce qui fait que, je disais en plaisantant, en voyant n'importe quel humain, vous voyez tout de suite que c'est un humain, mais si vous aviez un doute, il suffirait de regarder son cerveau, finalement.
Il suffirait de regarder son génome. Vous savez, le polymorphisme génétique chez Sapiens, c'est très très bas.
Donc tous les humains partagent un nombre de... Enfin, un gène à peu près familial, disons.
Curieusement, il y a très peu de différence entre vous, Frédéric Worms, et moi, Alain Prochian. Parce que d'abord, on n'était pas très nombreux au départ. Il n'y a pas très longtemps, 300 000 ans, en gros, on devait être 10 000 quelque part en Afrique. Nous sommes tous des Africains. Et puis, ça a grandi, mais il y a eu des... ça a rétréci par moments. Hein. Il y a eu des bottlenecks, comme on dit. Et donc...
Des embouteillages de l'évolution. Voilà,
oui, surtout des restrictions. Peut-être qu'on s'est retrouvé à 5 000, 10 000, 20 000, et puis c'est reparti. Ça fait qu'on est quand même très, très proche. Le polymorphisme génétique chez Sapiens, c'est très faible. Et c'est-à-dire que ça disqualifie toute forme de racisme.
Hein, il y a une unité, une universalité.
Voilà, vous êtes très très proche de moi.
Et de tous les autres.
Et de tous les autres. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre.
Je savais déjà que j'étais assez proche de vous sur ces questions-là, mais je ne savais pas par le génome.
Non, mais par le génome. En fait, c'est une espèce qui est assez peu diversifiée. Sinon, par ces éléments mobiles, justement, génétiques, parce que le génome est quelque chose d'incroyablement instable chez tous les vivants. Hein. Donc voilà, donc et ça nous sépare des autres animaux. Alors effectivement, c'est notre cortex. C'est un accident de l'évolution. Hein. On devrait avoir avec le corps qu'on a, on devrait avoir un cerveau de 400 cm3, comme un chimpanzé de base. Parce qu'on a le même poids qu'un chimpanzé, le poids sec d'un sapiens, que si on retirait tout le gras.
Si on fait un match de boxe entre singes, on peut nous classer voilà. De manière homogène.
Tout ce qu'on a au-dessus de 40 kilos, c'est du gras, d'accord ? Donc, on a à peu près le même poids qu'un chimpanzé, et on a 900 cm3 de plus. Il a 400 cm3 de cerveau, on en a 1300, 1400, 1500, ça dépend un petit peu des variables. Et donc, voilà. Et ces 900 cm3, ils ne sont pas n'importe où, ils sont dans le cortex frontal, ils sont dans les régions qui permettent d'avoir le langage symbolique, qui est autre chose que la communication. Hein. Et donc, ça fait de nous une espèce totalement à part. Alors, je ne dis pas qu'il faille s'en réjouir. Hein. Je pense même que c'est assez tragique, pour rien vous cacher.
Déjà, il ne faut pas le nier, il faut le constater.
Il faut le constater.
Il y a une différence entre l'humain et les autres animaux, et il y a un lien indéfectible entre tous les humains. Ça fait déjà deux thèses.
Oui, il y a un lien avec les autres animaux sur la base de l'histoire de l'évolution. C'est-à-dire qu'il ne faut pas, il faut pas dire que les animaux ne sont pas des cousins. Ce sont des cousins, mais très éloignés, bien entendu. Et il nous appartient. On a, de ce fait, on a effectivement une responsabilité. Mais Si nous pouvons prendre une responsabilité, c'est parce que nous sommes très différents d'eux. Vous comprenez ? C'est parce que nous pouvons faire le droit, nous pouvons faire évoluer le droit et nous imposer à nous, par le droit, dans certaines civilisations et à certaines époques, hein, des devoirs vis-à-vis des autres animaux. Pas nous, les autres. Ça veut dire que nous aussi, on est des animaux.
Et mais même entre nous.
Aucun autre animal aussi, ne peut faire ça. Si vous allez vous promener dans la forêt vierge, il n'en reste plus beaucoup, malheureusement, et que vous y allez en état de nature, vous retirez tous vos artefacts, eh ben, les droits de l'homme, à mon avis, vous ne les verrez pas. C'est-à-dire, vous ne reviendrez jamais. D'accord ? Donc, là, il y a la loi, mais c'est la loi de la nature, là, pour le coup. Hein. C'est
l'environnement hostile auquel...
Vous ferez bouffer, quoi. Voilà.
Le cerveau humain a été une réponse à cette adaptation.
Et nous, on est capable, au contraire, de faire des lois pour protéger les animaux. C'est-à-dire que nous nous imposons des devoirs, ça ne veut pas dire qu'ils aient des droits. Vous comprenez ?
Alors, ce serait intéressant de vous entendre, à l'impression, sur la jeunesse de la morale, de la politique, entre les humains. Pourquoi le cerveau humain a dû inventer, d'abord, contre les dangers venant des autres humains ou des humains entre eux, un certain nombre de lois, mais d'abord, donc pourquoi est-ce qu'il y a eu cette discontinuité dans l'évolution qui fait que finalement, d'ailleurs vous assumez une thèse assez discontinuiste, nous sommes tous des vivants, mais il y a des sauts, vous vous opposez aux thèses continuistes selon laquelle il y aurait une sorte de mouvement continu des espèces entre elles, il y a un saut qui fait qu'à un moment, donc ce cerveau a grandi, vous dites aussi que c'est pas juste sa différence de taille, c'est même pas seulement sa différence de taille en proportion avec le corps, parce que vous dites que la souris a ce même rapport, c'est une différence de connectivité, une différence de fonction qu'opère ce cerveau.
Il y a plus de connexions.
Mais sur la discontinuité, puisque le temps joue un rôle central dans ce livre.
Le temps, ça ne veut pas dire... Qu'est-ce qui s'est passé ? J'aimerais bien le savoir.
On peut juste le reconstituer. On peut dire qu'il y a forcément eu un saut.
Non, on peut regarder... c'est là que la génétique est extraordinairement intéressante et que même l'épigénétique ou l'étude de l'ADN ancien, si on veut comparer avec un Néandertalien ou un Denisovien... Parce que bon, nous sommes le dernier homo, hein, mais il y en a eu d'autres.
Nous sommes les derniers des genres homo.
Voilà, il y a 40 000 ans, on a perdu nos collègues néandertaliens et nos collègues denisoviens, mais il y a des fossiles, et on peut donc extraire l'ADN, et on peut faire de la génétique d'ADN ancien, et même aujourd'hui de l'épigénétique de l'ADN ancien.
Alors épigénétique, il faut expliquer, donc épigénétique, c'est les résultats d'une... adaptation, les résultats d'une histoire et pas d'un donné, disons.
Ce sont des modifications de l'ADN qui s'ajoutent aux modifications des bases. Donc des modifications qui permettent des changements dans l'expression des gènes. Et c'est là que ça devient très important parce que qu'est-ce qui s'est passé ? Vous savez, je prends souvent cet exemple, la bombe de l'oncle de Boris Vian, là, le fameux bricoleur.
Oncle, un fameux bricoleur.
Vous êtes un amateur des bombes atomiques. Voilà. Eh bien, l'important, c'est l'endroit où qu'elle tombe. Hein. Et donc, les mutations, c'est pareil. Vous pouvez dire, j'ai 1,23% de différence au niveau génétique avec un bonobo. Ouais. Mais si c'est 1,23%, ils sont dans un endroit ou dans des endroits... qui modifie énormément l'expression de gènes qui sont impliqués dans le développement du cortex. Alors évidemment, où le temps, la durée du développement, et ça c'est une chose très importante, parce que Sapiens se développe énormément après la naissance.
Cette question du temps m'a fasciné tout au long du livre, Alain Prochain.
Quand un chimpanzé naît, il a un cerveau qui est 50% de la taille de son cerveau adulte. Quand un Sapiens naît, c'est une taille petite, hein, 400 cm3, alors que quand un sapiens naît, il a un cerveau qui est 10% des 1400 cm3 de son cerveau adulte.
Qu'il aura à l'âge adulte.
Voilà.
Et le cerveau du bébé humain est à peine commencé. Quoi.
Il est déjà humain, mais il n'a pas encore engrammé tout. Alors, ce qui fait que le développement marque l'histoire postnatale de l'individu. À travers des périodes de développement qui sont très très longues. Un cerveau humain se termine vers 25-30 ans quand même, il faut le voir.
Il y a d'ailleurs un passage du livre, Alain Prochian, parce que la néoténie, cet état de faiblesse initiale du cerveau humain et donc du nourrisson humain dans son ensemble, qui motive aussi les soins des humains, les sociales, etc., qui a une dimension sociale très forte, certains récemment l'ont un peu idéalisé en disant c'est un paradoxe merveilleux, notre faiblesse fait notre force, notre précarité fait notre développement. Et il y a un passage dans votre livre que j'ai trouvé très important où vous dites qu'en fait, cette néoténie, elle peut très bien avoir été le résultat d'une contrainte évolutive. C'est pas finalement.
Ah bah, les résultats
il y a une contrainte qui a pesé. Le cerveau humain s'est peut-être trouvé retardé, mais ce retardement a en effet fait
sa gloire. C'est la contrainte de la parturition. C'est-à-dire que comme nous sommes bipèdes, que nous avons un gros cerveau, ça passe pas. Un cerveau adulte ne passe pas par le trou.
Voilà. La parturition, la naissance, donc, l'accouchement, c'est
un... Il y a une nécessité, il y a une contrainte qui fait qu'il va y avoir une prématurité de la naissance.
Si, oui, si le cerveau avait grandi in utero, le bébé ne peut pas naître.
Oui, mais en plus, s'il avait grandi in utero, il aurait eu dans sa construction toutes les informations qui sont des informations qu'on peut glaner in utero. Alors, je ne dis pas que ce n'est pas agréable, mais ce n'est pas, la même chose que le monde social dans lequel votre cerveau se construit. C'est-à-dire que si votre cerveau se construit dans une société, parce que les humains ont dû créer des sociétés extrêmement compliquées, justement à cause de leur faiblesse.
Donc il y a un cercle vertueux, Alain Prochiant, qui fait que le cerveau étant pas achevé, une société doit se créer, mais en même temps, c'est les fonctions sociales qui font que le cerveau humain est spécifique.
Voilà,
le cerveau humain
est
grand. Donc il y a un cercle vertueux du social et du biologique.
Ben, le cerveau, vous savez, il y a cette espèce de matérialiste naïf qui dit... le cerveau secrète la pensée comme le foie secrète la bile, là, le cannabis.
Cabanis. Je ne sais pas si vous l'avez fait exprès à l'approchant, mais ce biologiste français qui s'appelle Cabanis voilà. N'a pas le nom d'une drogue qui s'est légalisée dans certains pays du monde désormais.
Voilà. Donc, mais en fait, ce qu'on peut dire, c'est que c'est vrai, mais en même temps, ce qui est aussi vrai, c'est que c'est la pensée qui sécrète le cerveau. C'est-à-dire que toutes vos interactions sociales après la naissance font partie de la construction de votre cerveau. Toutes ces connexions dont vous parliez, toutes ces synapses, ça, elles sont modulées par l'expérience qui est la vôtre. Et plus cette expérience est longue après la naissance, plus elle se fait dans un milieu qui est riche. Et ce milieu est riche parce que les humains ont dû créer des sociétés à cause de leur faiblesse.
Donc au fond, la néoténie n'a rien de magique. Elle est plutôt une fonction biologique qui permet ces fonctions sociales, qui ont elles-mêmes fait l'humanisation du cerveau de ces singes que nous sommes.
Bah, c'est la néoténie, c'est un terme que j'aime pas beaucoup, le terme de néoténie,
vous
parce qu'il est un peu galvaudé. Oui, je l'utilise.
Mais je suis d'accord avec vous. Oui.
Il a été, vous savez, Frédéric Worms, la définition de la néoténie, c'est la capacité de se reproduire alors qu'on est encore pour les autres organes. Ceux qui ne sont pas les organes de la reproduction, on est encore très embryonnaire. C'est-à-dire que, par exemple, qu'on n'a pas de poils, très peu chez Sapiens, la femelle Sapiens a le vagin incliné vers l'avant et n'est pas passée vers l'arrière comme chez un chimpanzé. Les doigts de pied ne sont pas opposés, le pouce n'est pas opposé aux autres doigts, qui sont tous des caractères embryonnaires. Mais je pense que... la question importante, c'est pas celle de la néoténie. La question importante, c'est celle des périodes critiques de développement du cortex, pendant lesquelles certaines régions du cortex sont encore flexibles et peuvent apprendre de l'extérieur, et que ça se fait dans un milieu riche sur le plan, entre guillemets, intellectuel.
On va revenir à Alain Prochiant sur ces moments où la plasticité, qui est un terme aussi qui a été beaucoup utilisé récemment, mais sur lequel vous travaillez dans vos laboratoires aussi, au Collège de France et ailleurs, Alain Prochiant, c'est la manière dont cette plasticité se réouvre dans ce temps de l'évolution fait de nous des humains. Mais bien que nous soyons des humains, on peut avoir des amis parmi les animaux, Alain Prochiant, et c'est ce que vous nous proposez de vérifier par une chanson.
Mon meilleur ami est un chien. On peut lui parler, mais il ne vous répondra pas. Il aurait préféré avoir une femme comme amie. Une femme attentive, belle et sûre, qui travaillerait dans l'éducation nationale. Ils auraient des regards que nous n'avons pas, que nous n'avons plus. Et ils parleraient d'amour et de choses inouïes. Avec moi, ça n'est plus possible. Ça fait trop longtemps maintenant. Alors certains jours, je préférerais expliquer mon œuvre à un lièvre mort. Mais ça n'est pas possible parce qu'il est déjà occupé avec un type qui lui explique la peinture. Alors... je m'ennuie sérieusement. Je m'ennuie et mon emploi du temps vous appartient complètement. Alors, racontez-moi ce que vous faites là-bas. Il doit y avoir du soleil.
France Culture, matière à penser, Frédéric Worms.
Matière à penser, animal, humain, ce soir avec Alain Prochian qui vient de nous offrir un moment de la chanson de Philippe Catherine, Mon meilleur ami est un chien. Alain Prochian, on entend un moment dans la chanson et ça nous a tous surpris, y compris dans la régie, Pascal Desvignes. On entend dans la chanson, mon meilleur ami aurait pu être une femme, mais non, c'est un chien. Vous avez choisi exprès pour quelle phrase, pour quel moment exactement cette chanson?
J'ai choisi parce que on peut avoir de l'amitié pour les animaux. Il y a de l'affect qui passe entre un animal et un humain, bien entendu. Mais ça ne veut pas dire que l'animal est un humain. C'est-à-dire qu'il faut respecter l'animal pour ce qu'il est. C'est-à-dire qu'un animal est un animal, il a sa vie d'animal, il a son monde animal. Et je crois qu'il faut savoir les respecter. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de l'émotion qui puisse passer entre...
Qu'il n'y ait pas de subjectivité chez les animaux, par exemple.
À un certain niveau, il y a de la subjectivité, moins que chez Sapiens, parce que la construction d'un sujet nécessite quand même justement ce développement postnatal long, et puis quand même le langage symbolique que les animaux n'ont pas. Donc, disait Darwin, l'expression des émotions chez l'homme et les animaux... bien entendu, tout ce qui existe chez Sapiens existe d'une certaine façon chez d'autres animaux. Pas tous, mais pas au même point, c'est tout. Donc, j'ai voulu dire que je n'étais pas contre les animaux. Mais je préfère Sapiens.
Alors, voilà. Alain Prochian, vous n'êtes pas anthropologue, vous n'étudiez pas les façons de vivre avec les animaux dans les sociétés humaines, comment, d'ailleurs, dans notre société, l'amitié avec les animaux peut être aussi un signe, un symptôme des relations entre les humains, bonnes ou mauvaises, d'ailleurs. Et puis, cette violence dans certaines...
Je t'aime, je te mange.
Vous, hein? Voilà, ça c'est heureusement... plutôt éviter entre les humains, même si l'amour peut être vache, comme on dit. Il y a toutes ces métaphores animales, mais vous êtes vraiment biologiste, neurologiste, vous venez de parler du langage, on a parlé des sauts, des seuils, qui dans l'évolution conduisent du cerveau des primates, des autres primates, au cerveau humain. Votre livre « Singe toi-même » est ponctué de poche temporelle, j'allais dire, d'ouverture temporelle. Il y a dans le cerveau humain déjà des moments de plasticité, des moments d'évolution. Ça se referme et puis ça peut se réouvrir. Il y a aussi, dans l'évolution, il y a quand même d'étranges configurations temporelles, des accélérations, des ralentissements. Ce temps, est-ce que c'est pour vous quelque chose de l'essence du vivant, le temps vous dites d'ailleurs à un moment, mesurer la distance entre l'homme et l'animal, c'est une question de temps finalement.
Pas uniquement de temps, mais pas du temps physique. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre le temps physique, c'est-à-dire la durée du sablier qui s'écoule, ou de la montre qui tourne, et le temps biologique, parce que le temps biologique, c'est aussi les mutations. Les modifications du génome. Sur une même période, vous pouvez avoir quasiment qu'une modification du génome. Et alors, c'est comme s'il n'y avait pas de temps. Et puis, vous pouvez avoir un nombre infini de mutations, ou très très grandes mutations, et alors c'est comme si le temps s'accélérait énormément. Donc, on ne peut pas mesurer le temps biologique comme on mesure le temps physique. Ce n'est pas la même notion du temps. Même si le temps biologique s'insère dans un temps physique, bien entendu.
Donc on mesure le temps biologique à travers des effets qui peuvent être tantôt monotones et ne pas changer. Et puis tout à coup, il y a justement ces discontinuités.
Pour Sapiens, c'est très intéressant parce que ce qu'on a recherché, par exemple, c'est des morceaux d'ADN, de génome, qui étaient conservés dans toutes les espèces. Donc probablement très important, parce que ce qui se conserve en général, c'est important.
C'est que ça sert à quelque chose.
Et pour lesquels ils avaient disparu chez Sapiens, par exemple, ou pour lesquels on avait eu un très grand nombre de mutations chez Sapiens. Et donc, ça voulait dire qu'il s'était passé quelque chose de très important chez Sapiens au niveau de ses éléments génétiques. Et donc là, on peut comparer l'élément génétique chez une souris, chez Sapiens, chez un singe. On peut mettre les éléments génétiques avec un gène rapporteur dans une souris, celui du singe ou celui de Sapiens, Et on peut voir, par exemple, que pour l'un d'entre eux, je vais pas dire lequel, tout d'un coup, quand on met celui de Sapiens, la souris a un cerveau qui augmente. Quand on met celui du singe, le cerveau de la souris n'augmente pas. Donc on a trouvé des, vous voyez, ce sont des tout petits éléments qui ont des effets absolument dramatiques, même si le nombre de mutations est petit. Encore la bombe de l'oncle de Boris Vian.
De l'oncle de Boris Vian. Alors, à l'impression, dans un chapitre très important du livre, qui fait que c'est à la fois un point de convergence dans votre travail, mais aussi un point daté dans l'histoire des sciences. Il y a du nouveau aussi, la science aussi fait des sauts. Et aujourd'hui, on a des sauts dans tous les sens, j'allais dire, et tous les jours, quasiment. Vous montrez comment ce que vous venez de dire peut devenir réalité. On peut expérimenter aujourd'hui sur l'évolution. On peut retrouver, à travers des manipulations génétiques, ou bien de cellules qui peuvent nous faire revivre une histoire des mutations génétiques, des cellules souches. Est-ce qu'on peut mettre un peu d'humain dans l'animal, faire des expérimentations? Et là, vous avez un chapitre extraordinaire sur l'importance de nouvelles technologies. C'est un chapitre qui n'a l'air de rien au titre, comme souvent chez vous, qui pourrait venir d'un texte du XVIIIe siècle. Je le cite, hein, chapitre 10, l'importance de nouvelles technologies pour travailler éthiquement chez les primates. Ça n'a l'air de rien, mais au fond, on pourrait presque faire n'importe quoi aujourd'hui, prendre des cellules de singes, les tester chez des êtres humains et inversement. Où est-ce que vous mettez là vos nouvelles limites à ces nouvelles pratiques?
Les nouvelles limites, c'est pas moi qui les mets, c'est le droit. Et ça, je crois que c'est très important de toujours revenir au droit, parce que le droit n'est pas un droit naturel, il n'est pas un droit théologique, je ne suis pas croyant, donc ce n'est pas un droit ni transcendant, c'est un droit immanent et évolutif. C'est un droit qui marque en fait les évolutions des sociétés. Et donc, dans une société comme la nôtre, le droit a évolué dans un sens de protection de certaines espèces qui nous sont très proches, parce que, par exemple, on ne va pas les travailler chez le chimpanzé, c'est une espèce...
Et d'abord de protection des humains, on n'expérimente pas sur l'humain, ça c'est
un effet de l'histoire. On n'expérimente pas chez l'humain, mais on l'expérimente quand même aussi un petit peu chez l'humain. La recherche clinique...
On fait des essais cliniques, mais c'est encadré par des lois, comme vous dites.
Ah oui, mais c'est encadré par les lois, mais on ne peut pas ne pas faire de recherche clinique. C'est pour ça que quand les gens disent « Ah, on va arrêter l'expérimentation animale », on va tout faire en culture, sur des cellules qui poussent là. Donc, par exemple, des cellules avec lesquelles on va faire des IPS, et puis on va faire des organoïdes, et puis on va mimer des organes.
Donc c'est certaines cellules qui permettent de tout reconstituer.
On peut reconstituer à partir d'une cellule...
N'importe quel organe de...
N'importe quel organe, non, de... pas très bien enfin, fini, mais pas une tout, ébauche mais... d'organe. Mais même ça, si vous voulez, ça pose un vrai problème, parce que si vous injectez une drogue dans un corps, il va aller dans le foie, elle va aller dans le poumon, elle va avoir des métabolites, elle va faire d'autres molécules... Ces autres molécules peuvent avoir des effets toxiques et des effets qui sont dramatiques pour le patient. Et donc ça, vous le ferez jamais dans une boîte de culture. Donc pour ça que vous êtes obligé de passer par l'animal. C'est malheureux.
Hein, on ne le sait pas à l'avance finalement. Voilà. D'ailleurs, c'est le mot alors, drogue qui
vous passez par la souris.
Peut être chez la souris quelque chose de néfaste.
Chez la souris, le métabolite peut avoir zéro effet. Vous passez chez les macaques parce que c'est plus proche. Et puis un jour, eh ben, il faut faire un essai clinique chez Sapiens. Et là, ça peut se révéler ne pas marcher du tout ou avoir des effets très toxiques. Donc oui, on est obligé de faire une recherche clinique. Et je crois que, et là je serais très bernardien, avant de faire prendre un risque à un humain, je pense qu'il est préférable de faire prendre un risque à un animal.
Alors voilà. Claude Bernard, hein, qui avait écrit du 9e siècle et qui était dans la même institution que vous, qui...
Il l'avait quitté pour le Muséum d'Histoire Naturelle.
Ah, il a quitté le Collège de France pour le Muséum. Oui, pour agrandir son laboratoire.
C'est un souci de tous les savants. Peut-être qu'il s'était fâché avec des collègues, j'en sais rien.
Il avait écrit donc l'introduction à l'étude de la médecine expérimentale et en effet, défendait l'expérimentation animale précisément parce qu'on doit à la fois trouver ce qui peut guérir les humains. Et en même temps préserver les humains des torts qu'ils peuvent se faire d'abord en expérimentant. Donc vous-même, y compris dans l'expérimentation animale que vous justifiez un peu de la même façon, il y a quand même des limites que vous tracez auxquelles vous invitez le droit, qui vont peut-être se traduire dans le droit, sur les cellules souches précisément, sur ces cellules qui ont cette faculté temporelle très bizarre à la fois de nous faire remonter en arrière dans l'évolution et de faire pouvoir faire tout ressurgir, faire des expérimentations.
La question des cellules souches, vous le savez mieux que moi, Frédéric Vorm, parce que vous êtes au Comité consultatif national d'éthique, donc c'est des questions que vous
auxquelles
connaissez...
vous ne confieriez pas toute la législation, je
non,
crois.
Non, ni grand-chose, à vrai dire.
D'ailleurs, il n'y a aucun pouvoir
mais personne
légal.
Personne ne me l'aurait demandé, de toute façon. Enfin, donc non, la question des cellules souches a complètement changé, parce que maintenant, on peut faire une cellule totipotente, presque que peut
donner
comme
n'importe quel organe, quasiment.
À partir d'un fibroblaste, d'un morceau de poil, si vous voulez, ou d'un morceau de muscle. Donc,
on peut refaire le cerveau d'Alain Prochian à partir d'un morceau de
Non, on ne peut pas refaire le cerveau d'Alain Prochian parce que le cerveau d'Alain Prochian n'existe pas. Il n'est jamais le même. C'est-à-dire que du fait que l'expérience s'inscrit dans la matière cérébrale, on ne se baigne jamais deux fois dans la même personne, Frédéric Worms, il faut le savoir. Donc, on n'est jamais... Qu'est-ce qu'être soi ? Ça pose des questions abyssales, parce que, en fait, on est un individu en évolution. Il y a une individuation permanente chez les vivants, et très forte chez les sapiens, à cause de la richesse du milieu environnant. Et donc, on ne peut pas refaire... Il n'y a pas de marche arrière.
D'accord. Donc, même si je prends un de vos poils, les poils seront peut-être toujours les mêmes,
mais
le cerveau...
Vous pouvez refaire mille petits Worms. ils ne seront pas plus vous que vous ne serez vous dans 10 ans.
Tant mieux pour eux et voilà. Pour moi.
Donc ça, c'est vertigineux, c'est vrai. Mais en revanche, on peut prendre un fibroblaste d'un quelqu'un qui a une maladie génétique. Et puis, on peut en refaire une cellule souche en lui... faisant exprimer essentiellement 4 gènes qui ont été identifiés par un type qui s'appelait Yamanaka, il n'y a pas très longtemps, c'était en 2006, je crois, ou en 2008. Et puis, à partir de là, on peut refaire tous les tissus. Et on peut, sur ces tissus, il y a des mutations, puisqu'on a pris quelqu'un qui avait une mutation, et on peut commencer à faire de la médecine expérimentale sur les tissus en culture qui sont dérivés de cette cellule qui a été reprogrammée. Ils ne sont pas reprogrammés totalement, parfaitement. Hein.
Quel est l'intérêt d'avoir été chercher cette cellule-là chez ce malade-là l'an prochain ?
Parce que c'est quelqu'un
pour trouver
qui a une maladie,
les gènes de la maladie.
C'est quelqu'un qui a une... Mais on sait, par exemple, c'est quelqu'un qui a une maladie cérébrale qui est liée à une mutation X. Cette maladie va se déclencher vers 60 ans, parce que même si on a la mutation très tôt, les maladies peuvent se déclencher très tard. À ce moment-là, on va refaire des cellules nerveuses à partir d'un fibroblaste pris chez le malade, sans tuer le malade, bien entendu. Et on va pouvoir essayer de comprendre ce que fait ce gène, ou même tester des médicaments, faire du screening, du criblage de médicaments, sur les cellules qui sont dérivées, nerveuses, qui sont dérivées de ce fibroblaste de malade. Donc, ça ouvre des voies tout à fait intéressantes pour des recherches en pharmacologie, d'une certaine façon. Et pour ce qui est de vos singes, là, vous pouvez faire aussi des IPS de prenez chez un chimpanzé, et vous pouvez faire du chimpanzé en boîte de la même façon, du cerveau de chimpanzé en boîte, et puis vous pouvez regarder ce qui est différent d'un cerveau de sapiens. Donc, on peut faire beaucoup de choses avec, ça ouvre cette façon de travailler avec des cellules souches, et puis aussi la façon qu'on a maintenant, il y a de nouveaux outils pour les modifier génétiquement très rapidement avec les systèmes qu'on appelle CRISPR-Cas.
Technique de modification du génome,
voilà,
de découpage
extraordinairement riche, qui fait qu'il y a énormément d'expériences qu'on peut faire sans avoir besoin d'expérimenter directement sur l'animal lui-même. Même si à un moment donné, il faudra passer sur l'animal.
Mais alors Alain Prochian, on voit là, il y a un point commun moi qui me frappe beaucoup dans tous ces événements biologiques, ces sauts qualitatifs, cette plasticité du cerveau humain, ces cellules souches qui peuvent nous permettre d'expérimenter, des éléments génétiques mobiles aussi que vous évoquez, c'est qu'il y a à la fois une très grande labilité de l'évolution, il y a des transformations, et en même temps j'ai l'impression que dans votre analyse, ces changements conduisent à des seuils qui sont quand même assez stables. On n'est pas non plus dans un chaos constant. Il y a cette discontinuité humain-animal, il y a quand même des, malheureusement parfois pour les maladies, des limites à la plasticité, il y a quand même des éléments majeurs comme le langage justement qui vont définir des plateaux et qui ensuite vont peut-être reconduire à d'autres évolutions. Entre changement et stabilité...
C'est tout le problème. Hein. Robustesse et évolution. Voilà, c'est-à-dire que... l'instabilité a commencé par celle des génomes, parce que les gens pensent que le génome, souvent, « Ah, touche pas à mon génome
voilà. !»
Mais en fait, le génome, il touche tout seul, si j'ose dire.
On a eu un moment cette fixation sur le génome, si j'ose dire.
Il y a des éléments mobiles, ça se sort, ça se casse, ça se répare mal.
Ça, c'est fascinant dans votre livre.
Mais c'est comme aussi les cellules, vous refaites tout votre corps en cellules tous les ans, vous faites 80 kilos de cellules neuves tous les ans. Donc
un peu moins
Un peu moins, 78. D'accord. Donc, c'est pas le problème.
Non.
Et puis, vous refaites des membranes tout le temps, et puis vous réparez votre ADN tout le temps. Et puis, donc, il y a une grande instabilité. Mais cette instabilité, elle se fait aussi au cours de l'évolution. C'est sur cette instabilité que le temps peut prendre prise pour pousser à l'évolution ou à l'individuation. Mais en même temps, il faut que ce soit robuste. Donc il y a un équilibre voilà. toujours entre l'instabilité et la robustesse. Et évidemment, ça, mais il y a un moment où l'instabilité l'emporte et c'est le saut dans le néant. Hein. Voilà, quoi.
Alain Prochian, donc tout ce travail, on le disait au début, et malheureusement le temps justement passe assez vite, ce travail a aussi une visée pratique, une visée de notamment thérapeutique, de pouvoir résoudre certaines pathologies des humains. Vous croyez aussi évidemment au rôle de la science, à la fois comme connaissance, mais comme éducation entre les humains. Il y a dans la recherche, il y a un travail proprement humain, une sorte d'éducation des humains au contact du vivant. Si les humains s'intéressaient plus à la biologie, peut-être qu'ils se feraient moins la guerre. Est-ce que vous avez
la biologie,
quand même l'idée
à la physique,
que la science
à la chimie, aux sciences humaines, on n'a pas 900 cm3 de trop pour rien, si voilà. j'ose dire. Hein. C'est sur les 900 cm3 qui font
les
savants,
qui font
travailler.
Les
philosophes, qui font les artistes, qui font les suicidés, qui font tout ça. Donc,
il faut les faire travailler dans le bon sens, c'est
bien
les
entendu,
cm3.
C'est pour ça que l'éducation est une chose très importante, justement, parce que le cerveau se construit au cours de la vie postnatale. C'est pour ça que l'éducation est une chose absolument fondamentale et c'est pour ça que la science, la culture sont des choses fondamentales. Vous savez, c'est parce que justement nous sommes capables de laisser des artefacts sous forme d'écrits, de documents, que chaque génération part de là où la génération précédente l'a laissé. Mmh. Ça, c'est pas vrai chez les chimpanzés. Les chimpanzés, ils continuent à faire la brindille à termites. Hein. La génération nous laisse des instructions, des connaissances.
Et on repart de là.
Et
on progresse.
C'est pour ça que depuis l'écrit, en fait, depuis l'invention de l'écrit, parce qu'avant c'était des traditions orales. Mmh. C'est pour ça que les humains vivent vieux.
Le langage symbolique. Voilà. Et puis après l'écriture.
Les traditions orales, on passait par l'oralité, les connaissances à la génération suivante. Mais maintenant, on peut les passer par l'écrit. Hein. Gutenberg, c'est quand même un saut extraordinaire. Et puis, l'ordinateur, tout ça. Donc, c'est vrai que ça s'accélère depuis la Renaissance, hein, depuis l'invention de Gutenberg, ça s'est accéléré de façon extraordinaire.
Donc replacer l'humain dans le vivant pour vous, et notamment parmi les animaux, et avec son cerveau, avec son génome, ça n'est pas du tout le réduire, au contraire c'est l'ouvrir sur une histoire, sur des changements et sur sa singularité.
Sur aussi sur le futur, parce qu'on a une forte responsabilité sur ce qui va se passer dans les années qui viennent, parce que en même temps, on est une espèce avec un succès extraordinaire. On n'a jamais vu une espèce occuper 75% du globe. On en a mis deux sur la Lune quand même. Fallait le faire, hein, si j'ose dire. Et en même temps, on a construit peut-être les outils de notre propre disparition. Alors, si on disparaît, les autres espèces ou d'autres, la biodiversité s'arrête pas, elle change. On disparaîtra, puis tout continuera, et puis... Bon, on pourra pas chanter la nature. On sera plus là, donc ça n'existera plus. Ils n'étudieront rien du tout. Il n'y aura plus rien. Dès qu'on peut plus nommer les choses, elles n'existent pas. Mm-hmm. D'accord? Donc, il n'y a que Sapiens qui peut faire vivre la nature. Mais si Sapiens s'envoie dans le mur, alors il faut aujourd'hui, dès aujourd'hui, qu'il mette en place des stratégies scientifiques pour éviter le désastre. Voilà.
Merci infiniment. À la prochaine.
Merci à vous, Frédéric Worms.
Matière à penser, toute une semaine autour de animal-humain. Notre première rencontre était ce soir avec Alain Prochian, avec et grâce aussi à Éric Boisset, Sandrine Chaperon, Justine Villet, Catherine Donnet, Anne-Pascale Desvignes, Frédéric Vaux. Je vous donne rendez-vous demain pour une deuxième rencontre animal-humain avec Jocelyne Porcher. À demain!